Bonjour.
Bonjour à tous. Un nouveau confinement, car nous sommes submergés par la deuxième vague de Covid-19. Mesure annoncée hier soir par Emmanuel Macron. Son entrée en vigueur est prévue la nuit prochaine pour une durée d'un mois. Mais il sera moins sévère qu'en mars, précision de Pierre Neveu. Le président de la République demande également la généralisation du travail. Toute l'économie qui ne relève pas de la première nécessité sera néanmoins fortement touchée. Le soutien de l'État sera au rendez-vous, mais les entreprises sont inquiètes. Explication d'Annabelle Grelier. Et puis direction les États-Unis où Donald Trump et Joe Biden tentent de rallier un électorat clé, les latino-américains. Reportage en Arizona, signé Benjamin Illy. Les efforts déjà concédés ont été utiles, mais ce n'est pas suffisant pour lutter contre la deuxième vague de Covid-19. Ce constat posé en introduction de son allocution hier soir, Emmanuel Macron annonce le reconfinement de tout le territoire à partir de demain et jusqu'au 1er décembre. Le président de la République a joué franc jeu, détaillé pourquoi aucun autre scénario n'était possible. Un coup de frein brutal, dit-il, est la seule option pour épargner les plus fragiles, les plus jeunes, les plus modestes et les soignants. Ce deuxième confinement sera en revanche moins sévère que le premier. Les écoles resteront ouvertes, le travail pourra continuer, les EHPAD pourront accueillir des visites. Retour sur les annonces avec Pierre Neveu.
Emmanuel Macron devait expliquer et convaincre. C'était sa mission pour faire accepter de nouvelles mesures plus contraignantes. Est-ce que nous avons tout bien fait, s'interroge le chef de l'État. Sa réponse est non. Mais il assume pleinement sa responsabilité de protéger tous les Français et de reconnaître « Nous sommes aujourd'hui submergés par l'accélération soudaine de l'épidémie ». Sans dramatiser, mais en faisant œuvre de pédagogie, le chef de l'État décrète un nouveau confinement à partir de vendredi pour protéger les plus fragiles, les plus jeunes, les plus modestes et les soignants, mais aussi pour protéger l'économie. « Je ne crois pas à l'opposition entre santé et économie », assure le chef de l'État. « L'activité doit continuer, l'économie ne doit ni s'arrêter ni s'effondrer ». C'est pourquoi il invite les entreprises à la généralisation du télétravail, partout où c'est possible, mais il demande un nouvel effort aux commerces non essentiels. Les bars, les restaurants devront fermer. Et d'assurer que l'État maintiendra les aides pour les entreprises, le quoi qu'il en coûte se poursuivra. Dans cette nouvelle annonce de confinement national, Emmanuel Macron donne une inflexion aux mesures du printemps dernier en annonçant l'ouverture des crèches, des écoles, des collèges et des lycées. Le chef de l'État en appelle à la responsabilité de tous. « J'ai confiance en nous », dit Emmanuel Macron, qui demande de ne pas céder au poison de la division. Message qui s'adresse notamment à la représentation nationale, invité aujourd'hui à voter les mesures que présentera Jean Castex devant les deux chambres.
Suite à ces débats, le Premier ministre, en compagnie des ministres en première ligne, détailleront aux alentours de 18h30 l'ensemble des mesures qui vont entrer en vigueur la nuit prochaine, donc dès demain. Il faudra une attestation de sortie pour justifier de ses déplacements pour le travail, les courses de première nécessité, les soins médicaux, l'assistance à un proche ou encore la fameuse promenade d'une heure dans un rayon d'un kilomètre autour de son domicile. Emmanuel Macron a donc annoncé hier soir que les écoles, collèges et lycées resteraient ouverts pendant la nouvelle période de confinement avec des protocoles sanitaires renforcés mais dont on ignore encore les dispositions. Les universités, elles, resteront fermées et les cours seront donnés en ligne. L'objectif de cette décision a été clairement donné par le chef de l'État, ne pas priver d'instruction, d'éducation et de contact les jeunes avec le système scolaire. Et du côté des parents d'élèves, c'est un soulagement tout de même teinté de nombreuses craintes. Alix Rivière est coprésidente de la FCPE 93.
Je suis soulagée pour l'ensemble des élèves qui ne vont pas de nouveau repartir dans une période un peu complexe, d'autant qu'en plus on sait que ces périodes-là sont propices à replonger vers les réseaux sociaux. Donc c'est plutôt effectivement une bonne nouvelle. Maintenant la vraie question c'est l'équilibre à trouver pour ne pas faire exploser les liens en réanimation. Néanmoins, on est persuadé que dans les élèves qui vont continuer à être scolarisés, il y aura des cas positifs, asymptomatiques ou pas. Et nous préitérons réellement la vraie question du suivi scolaire à distance et de la pédagogie à distance pour ces élèves-là. Donc là-dessus, on va continuer de demander à l'Éducation nationale d'assurer le suivi scolaire de ces élèves. J'espère que l'Éducation nationale va anticiper sur ce phénomène nouveau qui va forcément apparaître et peut-être revoir les emplois du temps en fonction aussi de ces nouvelles contraintes.
Alix Rivière de la FCPE de Seine-Saint-Denis, jointe par Stéphane Geneste. Qui dit reconfinement dit bien entendu impact sur l'économie. Il y aura un soutien des entreprises pendant toute cette période, a assuré Emmanuel Macron. Un plan d'aide spécial sera d'ailleurs mis en place pour les plus fragiles, Annabelle Grelier.
C'est surtout aux petites et moyennes entreprises que s'est adressé le président. Elles sont les plus touchées, mais aussi les plus fragiles. Tous les commerces de proximité qui vont devoir fermer, comme les libraires, les coiffeurs, les fleuristes, et évidemment les bars et les restaurants, pourront toujours s'appuyer sur le dispositif de chômage partiel. Dispositif prolongé jusqu'à la fin de l'année, avec la prise en charge à 85% par l'État, qui avait déjà été annoncée en début de semaine. S'y rajoute la prise en charge jusqu'à 10 000 euros de la perte d'exploitation, des mesures de trésorerie pour les charges et les loyers des prochaines semaine. Bercy travaillerait en effet sur une aide fiscale pour inciter les bailleurs à réduire les loyers demandés aux entreprises, sans doute via un crédit d'impôt. Ces aides seront-elles suffisantes? L'UDP, l'Union des artisans et des commerces de proximité, se disait pessimiste hier soir. Les charges s'accumulent, il y a des loyers en retard et les premiers remboursements des prêts garantis par l'État vont tomber au mois de mars. Nous allons perdre tout un pan de notre économie, prédit son président Laurent Munro, qui hier soir s'interrogeait également sur l'équité de ces fermetures. Y a-t-il beaucoup plus de risques à fermer la boutique du coin de la rue que la grande surface qui est à côté, se demandait-il. Pour les travailleurs indépendants, même inquiétude, alors qu'ils ne bénéficient plus d'aucun soutien depuis 4 mois, dénonce-t-il. Emmanuel Macron leur promet un plan spécial qui devrait leur être détaillé ce matin. Le gouvernement en a-t-il les moyens? Le ministre délégué chargé des comptes publics, Olivier Dussopt, estime qu'un mois de confinement représente 10 milliards d'euros de dépenses d'intervention et ce serait à peu près ce qui reste sur l'enveloppe d'aide pour 2020.
Le reconfinement va provoquer des dégâts économiques et humains considérables, alerte également le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Un secteur particulièrement en crise, d'ailleurs, a été oublié par Emmanuel Macron, celui de la culture. Fermeture à nouveau des cinémas, des musées, tout le secteur est à l'arrêt et réagit déjà à l'annonce de reconfinement. Syndicat de l'édition, syndicat de la librairie et des écrivains appellent ce matin le gouvernement à laisser les librairies ouvertes. Cet après-midi, la crise sanitaire sera également au menu d'une réunion par visioconférence des dirigeants européens. Quasiment toute l'Europe est confrontée à la nouvelle vague. Cette réunion aura pour but de tenter une nouvelle fois de coordonner les politiques de lutte contre le coronavirus, politique qui reste disparate à ce jour à travers l'Union. Bertrand Galichet.
8 mois après le début de la pandémie en Europe, la coordination entre les 27 face au virus reste balbutiante. Au moment où déferle la deuxième vague de Covid-19, les appels lancés hier par Ursula von der Leyen permettent en creux de le comprendre. Par exemple, lorsque la présidente de la Commission européenne est obligée de réclamer un meilleur partage des données sanitaires ou une stratégie commune sur les futures vaccinations. Ursula von der Leyen tente de donner l'exemple en mobilisant 100 millions d'euros pour acquérir des tests qui seront distribués à tous les États membres, mais l'harmonisation de la quarantaine reste à mettre en place, de même que les règles applicables aux voyageurs au sein de l'Union européenne. La présidente de la Commission plaide pour un formulaire commun de localisation des passagers. Cet après-midi, les 27 vont tenter de s'accorder dans l'urgence, alors que beaucoup d'entre eux doivent gérer séparément de nouvelles mesures hétérogènes, du reconfinement au couvre-feu, en passant par les fermetures de commerce.
Bertrand Galichet, changement de continent. La présidentielle aux États-Unis, c'est mardi prochain et dans la dernière ligne droite de la campagne, l'Arizona est au cœur de la bataille. Chacun de leur côté, Donald Trump et Kamala Harris ont sillonné hier ce grand état du sud-ouest des États-Unis. L'Arizona est habituellement un bastion républicain, mais désormais c'est un nouvel état pivot. Joe Biden a de l'avance dans les sondages et ceux qui détiennent peut-être la clé de ce scrutin dans cet état, ce sont les latino-américains. Reportage de Benjamin Hilly. Breaking
news. Chaque jour, la radio fait les comptes. Combien de nouvelles contaminations en Arizona? L'Arizona est l'un des États américains les plus touchés par l'épidémie. En première ligne, la communauté latino. Le virus a fait des ravages dans les familles, dans les quartiers populaires de Phoenix.
Fais-toi parler en espagnol, c'est qui elle? Ok. Adrian, il a 41 ans, il est cuisinier, il vient de se faire tester. Négatif.
Yes, sir.
Adrian n'avait pas voté en 2016, mais cette année, son choix est fait.
Je dis que Biden serait mieux, sincèrement.
Biden, ce serait mieux. Franchement, le président actuel n'a rien fait contre ce virus. La seule chose qu'il a fait, c'est de bouleverser nos communautés. Cette année, nous devons ouvrir la bouche et dire tout haut ce dont nous avons besoin pour sortir de cette crise. C'est un point essentiel de nos votes. Les latinos représentent près d'un quart des électeurs en Arizona. 100 000 jeunes latinos ont atteint l'âge de voter depuis 2018, selon Chicanos por la Cosa, une organisation communautaire très influente. Le président, David Adame, dit c'est un bulletin dans l'urne, montrer à notre pays que le vote latino est un vote clé. Ils ont besoin du vote latino pour gagner une élection. Et le vote latino, c'est vrai, pesait déjà lourd en Arizona en 2016. Donald Trump avait remporté l'État avec seulement 90 000 voix d'avance.
Benjamin Illy. La météo, le temps ce jeudi sera maussade sur une large moitié nord du pays, plus ensoleillé dans le sud, avec tout de même de la pluie sur le centre du pays ce matin et dans la région nord cet après-midi. Les températures minimales seront comprises entre 7 et 15 degrés, les maximales entre 12 et 22.